Avant de commencer, je vais vous dire que j'ai demandé à Jean-Paul Desandré une petite faveur. Je ne le vois plus. Il est où? Ah, il est là. Parce que moi, je sais que je parle très vite. Je suis espagnole, voilà. Et du coup, j'ai demandé à Jean-Paul, qui est sensible à ce fait, de, s'il voit que j'accélère trop, de lever la main. Et du coup, ça va provoquer que probablement je vais faire une tête genre « Oh, oh !» Et je vais commencer à parler à nouveau, doucement. Merci Mathieu pour la prière. Du coup, dimanche dernier, ici, on a fêté la Pâque, la fête pour excellence. Et nous, maintenant, on avance tout doucement vers la Pentecôte. Vous savez tous, hein, probablement, la Pentecôte, on l'a fête 50 jours après la Pâque. Pentecôte, ça veut dire 50 jours après. Et ces deux fêtes coïncident en Israël dans les temps avec les temps de la moisson. D'abord la moisson de l'orge et après la moisson du blé. Alors je me suis dit, je vais choisir pour aujourd'hui un texte qui se passe précisément à ce temps-là de la moisson, dans la moisson de l'orge et du blé. Je ne sais pas si quelqu'un a en tête quel texte ça peut être. Mystère. La solution, c'est l'histoire des Ruth. Je ne sais pas si vous êtes familiarisés avec l'histoire des Ruth. Aujourd'hui, on va la revoir. Ruth, c'est un tout petit livre. Je vous encourage à les lire dans la semaine après. Que 4 chapitres. Plus court, c'est difficile à faire. On les retrouve entre les livres des Juges et les livres de Première des Samuel. Et c'est qui Ruth? Ruth, c'est une femme moabite. C'est étrangère, c'est pas hébreu. Et pire que ça, Ruth est membre du peuple moabite et les moabites sont un des ennemis numéro un des hébreux. On trouve ça dans les livres des Deutéronomes. C'est écrit, si vous voulez aller chercher, Deutéronome 24:4. Que jamais un membre du peuple moabite pourra rentrer dans la communauté d'Israël. Parce que quand les Hébreux ont traversé la mer Rouge, ils ont sorti d'Égypte, ils se dirigeaient vers Canaan, les Moabites ne sont pas venus à leur rencontre avec du pain et de l'eau. C'est-à-dire ils ne sont pas allés pour les aider dans leur détresse. Et pire encore, ils ont soudoyé un prophète, Balaam, pour qu'il maudisse les peuples d'Israël. Il n'a pas réussi à les faire, mais quand même, ils ont voulu. Et on va retrouver dans cette histoire que, malgré ce contexte, Ruth, cette femme moabite, elle va être acceptée dans la communauté d'Israël, elle va être accueillie dans la communauté d'Israël, elle va se marier avec un homme israélien et avec lequel il va avoir un enfant. En fait, c'est ça les livres de Ruth. Un homme, une femme, se marient, ils ont un enfant. Bon. On pourrait dire que ça semble rien d'autre qu'une idylle champêtre, parce que tout ça se passe dans les temps de la moisson. Et on va parler des champs de Moab et des champs de Juda. Grâce à cet enfant que Ruth aura avec cet homme, elle va devenir l'arrière-grand-mère du roi David et encore, elle va être ancêtre de Jésus, le Messie. Alors, ma prédication veut répondre d'ailleurs déjà à cette question. Comment c'est possible que quelqu'un comme Ruth, qui à la base est si loin de pouvoir recevoir la bénédiction divine de rentrer dans la communauté de racheter, se retrouve à la fin, donner les titres à un livre de la Bible, il n'y en a que 66, et rentrer dans l'histoire du salut par la grande porte comme ancêtre du Messie. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial chez Ruth? Qu'est-ce qu'il y a de si exceptionnel? En plus de cette question que je me pose, je vais rechercher 3 petites choses qu'on peut apprendre de la personne de Ruth et de son histoire pour nous aujourd'hui, ici. Alors, j'ai choisi 3 versets où Ruth parle, dans 3 chapitres différents. Et entre verset et verset, je vais raconter un peu l'histoire pour ceux qui ne l'ont pas en tête et pour donner les contextes. Alors, cette histoire commence, ça fait très très longtemps, à l'époque des juges, c'est très très longtemps. Et ça commence très mal, mais très très mal, franchement. Ça ressemble un peu à l'histoire de Job, parce que ça commence avec une énorme tragédie familiale. Il y a un couple à Bethléem, ils s'appellent Elimelec et Noémie, un homme et une femme, qui ont deux enfants, deux garçons. Et à cause de la famine qui sévit Bethléem à ce moment-là, c'est-à-dire il n'y a pas de quoi manger, ils décident de déménager au Moab. Là-bas, en terre des Moab, on sait déjà que c'est territoire ennemi. Les deux enfants, les deux garçons, vont se marier avec deux femmes moabites. L'une s'appelle Orpa, la deuxième c'est notre Ruth. Au fil des temps, Elimelec, le père, va décéder. Et ensuite, oh là là, les deux garçons aussi. Quand notre histoire commence, on se retrouve vraiment dans cette tragédie de retrouver trois femmes seules. Noémie, la belle-mère, et les deux belles-filles, Orpa et Ruth. Sans mari, sans enfant. Il faut comprendre que dans les contextes de l'époque, une femme sans mari et sans enfant n'a pas moyen de subvenir à ses besoins. C'est une situation de complet désarroi et désespoir. On est au plus profond d'un puits noir, tellement comme Job. Alors, étant donné ces circonstances vraiment terribles, Noémie invite ses deux belles-filles, Orpa et Ruth, à rentrer chez elles, dans leur famille, à Moab, parce que là, elles auront la possibilité de se remarier, d'avoir des enfants, bref, de survivre. Noémie, de son côté, décide de rentrer à nouveau à Bethléem, chez elle, parce qu'elle a entendu dire que l'Éternel a béni son peuple avec de la pluie, et donc de la moisson, et donc de la nourriture. Orpa va hésiter, elle ne sait pas trop quoi faire, mais finalement elle rentre chez ses parents. Ruth est différente, elle prend une autre décision. Et on va voir là notre premier verset avec la réponse de Ruth. On retrouve dans les chapitres 1, verset 16. Mais Ruth lui répondit à Noémie, « N'insiste pas pour que je te quitte et que je me détourne de ta route. Partout où tu iras, j'irai. Où tout installera, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Les gras, c'est moi qui l'ai mis, ce n'est pas dans les textes. Et du coup, je ne sais pas si vous, probablement, vous avez entendu, ces versets sont très connus, parfois on les entend dans des mariages. Non ? Mais en fait, dans les contextes de l'histoire, c'est tellement étonnant. Ce n'est pas en fait la réponse qu'on imaginerait dans la bouche d'une belle-fille par rapport à sa belle-mère. Ça parle d'un tel attachement, d'une telle loyauté, d'un tel amour, c'est bien au-delà de ce qu'on pourrait espérer. Et cette attitude que Ruth révèle là, déjà, dans ces versets, ça s'appelle en hébreu, la hesed. Et qu'est-ce que c'est la hesed ? C'est un mot très riche, très complet. Ça parle d'amour et bonté fidèle, gratuite, constant, infaillible, éternel. Dans la Bible, est traduit de multiples formes, parce que c'est un mot très riche de sens. Bonté, bienveillance, grâce, miséricorde. On les retrouve souvent dans les psaumes. Je crois que quand Étienne il a prié, il a mentionné cette manière que l'Éternel a de se présenter comme « je suis lent à la colère, riche en bonté, ou parfois c'est en miséricorde ». Ça, c'est la hesed. Souvent, c'est pour parler de cette attitude, de cette ressentir de l'Éternel, de notre Dieu, par rapport à son peuple, à l'humanité, à la création. Mais aussi, ça s'utilise pour parler de la relation entre des humains, comme dans l'histoire des Ruth. Et c'est l'amour, pas comme un sentiment, c'est l'amour qui se met en action. C'est l'amour qui agit et qui va au-delà de ce qui est requis, tellement comme Ruth ici. Chesed est la vertu de l'excès. Et c'est, je vous l'annonce déjà, la clé de l'histoire. En fait, Ruth exprime avec ce texte une conversion radicale. Et c'est d'autant plus surprenant parce que, je n'ai pas raconté, mais avant ça, Noémie ne fait que parler mal de l'Éternel. Ah, l'Éternel, elle m'a créé tous ces mots, mon mari décédé, mes enfants décédés. Il ne fait pas trop la pub à ces moments-là. Mais Ruth, c'est-à-dire, il l'accuse de tout ce qui lui arrive. Noémie est plutôt installée dans la plainte, dans les victimismes. Mais Ruth décide de parier pour l'Éternel. Elle va faire les chemins physiques entre Moab et Juda. Elle va décider de rentrer à Bethléem avec Noémie. Mais aussi, elle va faire les chemins spirituels depuis l'idolâtrie du champ des Moab vers l'adoration du seul Dieu véritable. Le thème donc dans ces premiers chapitres, c'est la conversion. Les retours, pour ainsi dire, de la personne, pas nécessairement physique, nécessairement, vers le seul Dieu. Ruth, on retrouve ici, c'est un nouvel Abraham, une autre personne qui va quitter tout pour suivre l'Éternel. Et un peu comme disait Matthieu, quelqu'un qui va tout abandonner et d'une certaine manière tout retrouver. Et en fait, il y a plein de parallélismes entre le chapitre 1 de Ruth et Genèse 12, l'appel d'Abraham. Ruth va quitter son pays, sa famille, sa langue, sa culture, ses divinités, les idoles, pour intégrer un pays étranger et encore plus difficile que dans les cas d'Abraham, un pays ouvertement ennemi. On se souvient quand l'Éternel appelle Abraham, il dit « Tu vas aller dans un pays que je te montrerai ». Après, ça sert à Canaan, mais à la base, ce n'était pas des ennemis. Ici, Ruth, elle sait qu'elle va aller dans un contexte difficile. Mais elle va tout abandonner, et on va voir, pour à la fin, tout gagner. Ruth choisit la bonne voie, malgré que les yeux lui disent, et peut-être la tête, qu'il y a des difficultés très grosses sur les chemins. Et nous aussi, on est appelés à choisir, comme dit par exemple le Deutéronome, entre la vie et la mort, les jours de notre conversion, entre rester à Moab ou aller vers Juda, vers Bethléem. D'ailleurs, Bethléem, ça veut dire la maison du pain, là où on est nourri. Et on est appelé à choisir les jours où on accepte Jésus comme notre Sauveur et notre Seigneur. Mais pas que. Aussi, on est appelé à choisir chaque jour de notre vie quel chemin on va suivre. On va plutôt revenir vers Moab, on pourrait dire vers Égypte. On va avancer vers la terre promise. Quand on se réveille les matins, par exemple, quel chemin prend nos pensées? Qu'est-ce qu'on se dit, par exemple? Oh non, mince, quelle journée pénible qui m'attend. Là, je rigole parce que souvent, je commence comme ça la journée. Ou plutôt, on s'est dit, merci Seigneur, je suis toujours encore là. Une nouvelle journée d'aventure pour vivre à côté de toi. Chaque pensée, chaque parole, chaque action, chaque décision nous mène soit vers la maison du pain, Bethléem, les saluts, soit vers Moab. Choisissons comme Ruth la bonne voie, celle qui mène vers la vie, même si on voit autour de nous que ce n'est pas facile ces chemins et qu'il y aura des difficultés sur les chemins. Dans les chapitres 1, je vous ai parlé de deux personnages, mais en fait, dans les livres de Ruth, il y en a trois qui sont importants. Il y a Noémie, la belle-mère, qui est de Juda et qui va rentrer, qui vient de rentrer à Bethléem. Il y a Ruth, sa belle-fille, qui, contre tout pronostic, décide aussi d'aller à Bethléem et la suivre. Et là, dans les chapitres 2, on va faire connaissance avec les troisièmes personnages clés. Il s'appelle Boaz, c'est un homme âgé, c'est un Israélien de Juda, c'est un parent proche du mari de Noémie. Ruth, on a vu, représente la personne qui met sa confiance en Dieu, capable de tout abandonner parce qu'elle a la foi. Et Boaz, de son côté, c'est une préfiguration de Jésus. Et qu'est-ce que ça veut dire une préfiguration de Jésus? C'est-à-dire qu'il a quelque chose en lui qui nous prépare déjà pour Jésus, qui nous signale Jésus, qui c'est un avant-goût de Jésus. Et pourquoi? Parce que Boaz sera le rédempteur de Ruth. Grâce à une loi juive, de laquelle je vais parler un peu plus tard, il va racheter Ruth, il va la sortir de ses puits noirs où elle était, faisant quoi? En la mariant et après en ayant un enfant. Alors, pour reprendre l'histoire là où on l'a quittée à Ruth 1, on a vu que Ruth décide de s'attacher complètement à la destinée de Noémie et elles arrivent à Bethléem à nouveau. Et qu'est-ce qu'elles font là? Une fois installées, Ruth prend l'initiative d'aller glaner dans un champ. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas des moyens de subsistance, comme je disais, pour subvenir à ses besoins et aussi pour pouvoir quelque chose à manger pour Noémie. Il faut savoir que la Torah, moi, j'aime pas les mots loi parce que je trouve que c'est une très mauvaise traduction. La Torah, c'est les Pentateuques, les cinq premiers livres de la Bible. Alors, je dirais la Torah, comprenez par loi la loi, si vous voulez. La Torah stipule que les propriétaires d'un champ doivent laisser toujours une partie sans moissonner pour que les personnes sans ressources puissent se nourrir. Alors, sans les savoir, Ruth s'est mise à glaner dans, je sais pas, le champ qu'elle retrouve, et ça se trouve que c'est, oh là là, un champ qui appartient à Boaz. Voilà. Et pendant la journée, Boaz vient visiter son champ et elle aperçoit cette femme qu'elle ne connaît pas et il demande à ses travailleurs, c'est qui cette jeune femme-là qui est en train de glaner? Il lui dit, c'est Ruth. Ah, alors il est très touché. Parce qu'on pourrait dire que Boaz connaît Ruth avant de la connaître. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un paradoxe terrible. Ça veut dire qu'il avait entendu parler des Ruth déjà. La rumeur de, waouh, cette femme qui a eu cette hezet pour sa belle-mère qui a fait tout ça. Et du coup, Boaz, quand il apprend que c'est Ruth, cette femme-là, il a plein de gestes de générosité et de bonté, des chesed aussi, envers elle, parce qu'il a été touché, ému de voir comment elle avait agi. Et c'est là qu'on arrive au verset qui nous intéresse dans les chapitres 2. Non. Et voilà. C'est Ruth qui dit, bon, pardon, Ruth parle pas, les textes nous disent, Ruth s'inclina jusqu'à terre, se prosterna et lui dit, pourquoi m'accueilles-tu avec tant de faveur et t'intéresses-tu à moi qui ne suis qu'une étrangère? Et elle aurait pu dire, en plus d'un peuple maudit, mais elle ne le dit pas. En fait, voilà les deuxièmes thèmes. Ruth, c'est quelqu'un qui fait les bons choix. C'est tellement important de faire les bons choix. Les premiers jours et tous les jours de la vie. Et là aussi, elle fait une deuxième chose très importante pour notre vie des croyantes. Elle s'humilie. L'humilité. L'humilité, c'est un mot qui vient dans notre langue française, du latin. Ça vient du latin du mot humus, qui veut dire la terre. En fait, c'est comme comprendre qu'on n'est que de la terre. Non ? Ruth décide d'aller glaner. Et cela, en soi, c'est déjà une preuve d'humilité. Parce que c'est une tâche réservée aux plus pauvres parmi les pauvres. Qu'est-ce qu'ils vont penser les autres ? En plus, la tradition juive raconte, peut-être c'est vrai, peut-être c'est faux, que Ruth était la fille du roi de Moab. Alors, quoi qu'il en soit, il faut s'abaisser pour l'année. Il faut reconnaître qu'on est dans les manques et dans les besoins. Et ça, c'est l'humilité. Reconnaître qu'on a besoin de la grâce et du Seigneur. Et devant Boaz, qui je dis représente, c'est une préfiguration de Jésus, elle va s'incliner jusqu'à terre, s'est prosternée et s'est présentée comme rien d'autre qu'une étrangère. Abraham aussi, pour continuer avec les parallélismes, parce qu'il y en a plein en fait, entre ces deux personnes, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais tout au long de son histoire dans la Genèse, elle va se présenter à droite, à gauche, comme un étranger. Voilà. Mais Abraham, attendez, c'est lui à qui Dieu avait promis la terre des Canaan. Il aurait pu faire valoir son statut de patriarche. Moi, je suis l'homme élu par Dieu. Et arriver là et exiger les tours du propriétaire. Et non. Elle se promène tout au long de sa vie, sans arriver à voir vraiment son peuple installé là, avec la conviction, la foi que ça va arriver, mais en sachant qu'il n'était qu'une étrangère. La parole nous rappelle à maintes reprises que celui qui s'abaisse sera élevé et au contraire que celui qui s'élève sera abaissé. Jésus nous dit en Matthieu 18, par exemple, que le plus grand en plus dans le royaume des cieux sera celui qui s'abaissera comme un de ses enfants. Et c'est exactement le cas pour Abraham et pour Ruth. Les deux ne se prennent pas pour une personne importante et spéciale, et quand même, le Seigneur va les élever. Et nous, aujourd'hui, ici, nous avançons tout doucement de la Pâque vers la Pentecôte. La Pentecôte, c'est une fête aussi d'origine agricole qui célèbre la moisson du blé. Mais que pour nous, les chrétiens, elle a été revêtue d'une plus grande fête, c'est la venue de l'Esprit-Saint. Non, l'histoire qu'on lit dans le livre des Actes, chapitre 2. Et ça, c'est le début de l'histoire de l'Église et c'est le début de l'histoire de la moisson spirituelle. Les saluts, c'est pour tout le monde, pas que pour les Juifs. Paul, dans sa lettre aux Romains, il dira, le salut est d'abord pour les Juifs et après pour les Goyim, pour tout le monde. Nous sommes appelés, nous aussi, à nous abaisser, à nous humilier, pour devenir les moissonneurs et les moissonneuses, dans ces cas, spirituels, pour les seigneurs. Jésus l'avait dit dans Matthieu 9, c'est ça. C'est Jésus qui parle. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Alors pour nous attaquer à la tâche de moissonner, il nous faudra accepter de nous prosterner, d'avaler notre orgueil. Qu'est-ce qu'ils vont penser les autres? De reconnaître qu'on est dans les manques, qu'on est dans les besoins et spirituels, nous aussi. Il faudra qu'on arrête de nous considérer comme quelqu'un de spécial, mais rien d'autre qu'un étranger, des passages sur cette terre. C'est ce qui dit la lettre aux Hébreux par rapport à nous tous, non ? En sachant que notre vraie citoyenneté est au ciel. Et c'est ce qu'ont fait Abraham et Ruth. Et après avoir vu que Ruth fait les bons choix et que Ruth décide de s'humilier, on va voir cette troisième petit verset qui nous permet d'apprendre encore quelques autres choses de Ruth. Pour continuer avec l'histoire, Ruth va pas glaner un seul jour dans les champs des Boaz, il va tous les jours. D'abord, ça sera la moisson de l'orge, et comme je vous ai dit, après, ça coïncide avec les débuts de la moisson du blé. Mais le jour est arrivé où la moisson s'est finie. Alors, fini la moisson, fini la nourriture. Comment survivre alors ? Alors, Noémie, la belle-mère, va idéer un plan pour que Boaz accepte de se marier avec Ruth, en faisant appel à une loi qui se retrouve dans la Torah, la loi du mariage léviratique. Jésus en parle à un certain moment dans l'Évangile, peut-être ça vous parle. Selon cette loi, si un homme marié meurt sans laisser descendance, son frère doit épouser la veuve pour garantir la continuité de son nom. C'est-à-dire l'enfant qui va naître portera le nom de la personne, de l'homme qui a décédé, pas du parent, du père qui vient d'arriver. Et quand Noémie lui raconte à Ruth ce qu'elle va devoir faire pour déclencher cette situation, pour que Boaz accepte d'appliquer cette loi, alors voyons voir ce que Ruth lui dit. On est dans les chapitres 3. Et Ruth lui répondit à Noémie, « Je ferai tout ce que tu me dis. » Waouh, cette Ruth. D'abord, elle nous a épatés avec cette loyauté, avec cet amour débordant. Et maintenant, cette expression de obéissance. L'obéissance, c'est le troisième volet. Elle obéit, et bon, on ne va pas les voir, mais elle obéit sans tarder. Et ce qui m'épate aussi, c'est qu'elle obéit sans râler. Parce que je ne vais pas vous raconter, mais il faut faire une chose pas très évidente. Mais elle va les faire sans tarder et sans râler. Je dis que souvent, la Bible m'interpelle plus pour tout ce que les personnes ne font pas et disent pas que pour ce qu'ils font et qu'ils disent. Parce que c'est tellement une maîtrise de soi, non ? On dirait dans ces cas, par exemple. Abraham est aussi quelqu'un... Ah, pardon Jean-Paul, j'avais raté ton bras. Ah non, tu ne l'as pas levé. Ah, tu disais bien. Ah d'accord. Désolée. Abraham est aussi quelqu'un très connu pour son obéissance, un modèle d'obéissance. Quelqu'un qui répond vite à l'appel de Dieu. Quand Dieu l'appelle, il dit « Mais voici ». Ça, c'est un mot hébreu, « Hineni ». Et c'est très beau, ces mots, parce que ça veut dire « Mais voici », mais pas seulement dans le sens physique, « Je suis là », voilà, physiquement. Ça veut dire aussi dans le sens spirituel, « Je suis dispo à t'écouter ». Et en hébreu, écouter, c'est obéir. Voilà, on ne peut pas séparer les deux notions. Si tu écoutes, tu obéis. Et Abraham, il devient obéissant même quand il doit aller apparemment, il a cru comprendre, sacrifier Isaac, son fils unique, les fils de la promesse, celui pour lequel il a attendu 20 ans. Mais il pense en Genèse 22 que voilà. Et qu'est-ce qu'il dit, Genèse 22, l'histoire de le non-sacrifice d'Isaac? Les textes disent qu'Abraham s'éleva des bons matins. Oh, ça, il sait ce qu'il doit aller faire, hein, et il se lève des bons matins. Et alors nous, quand le Seigneur nous appelle, est-ce qu'on lui dit comme Ruth, « Je ferai tout ce que tu m'as dit ». Est-ce qu'on lui répond « Me voici » comme Abraham, comme Samuel par exemple aussi, dans le sens de « Je suis là, mais aussi je suis dispo à t'écouter, prêt à t'obéir, envoie-moi ». Est-ce qu'on se lève de bon matin pour faire ce qu'on n'a pas très envie de faire, même si on sait que c'est le Seigneur qui nous appelle à le faire? Est-ce qu'on fait ce que le Seigneur nous demande, sans traîner des pieds, sans procrastiner, sans chercher des excuses, sans râler, comme Abraham et comme Ruth? Voilà, avec ces trois petits versets, on a pris quelques petites choses, on s'est rappelé des trois petites choses avec Ruth et avec Abraham. Et c'est que pour devenir un bon moissonneur, moissonneuse, et on est tous appelés à devenir moissonneurs et maçonneuses pour les seigneurs, maintenant qu'on s'approche de la Pentecôte, il faut choisir les bons chemins, tout le temps. Tout au début du chemin de notre vie avec les seigneurs et tout au long du trajet, jour après jour. Aussi qu'il faut continuellement s'abaisser. Se souvenir de qui nous sommes, issus de la terre. Il y a ces psaumes très jolis aussi, les psaumes 103 où David dit... Je ne l'ai pas là, mais j'ai paraphrasé quelque chose comme que l'homme, c'est comme une herbe qui fleurit et hop, coupe devant, il est parti. On n'a même pas les souvenirs d'où c'était l'herbe. Non, c'est nous. En fait, en plus de faire les bons choix et de décider de s'humilier, il faut obéir quand Dieu nous appelle et les faire sans tarder et sans râler si on veut les faire parfaitement bien. Et bon, c'est très bien tout ça, je trouve intéressant, c'est... voilà. Mais ça ne répond pas à ma question de tout début, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vais la répéter. Comment c'est possible que quelqu'un comme Ruth, qui à la base est si loin de pouvoir recevoir la bénédiction, d'intégrer la communauté d'Israël à cette époque, se retrouve à la fin donner les titres à un livre de la Bible et rentrer dans l'histoire du salut par la grande porte comme ancêtre du Messie? Pourquoi c'est tellement important, ces livres, au point de former part du canon de la Bible? Et il est où, Dieu, dans toute cette histoire, cette idylle champêtre, non? Garçon retrouve fille, fille retrouve garçon, voilà, il se marie, hop, enfant. Il est où les bâtons qui vont fendre la mer en deux, comme avec Moïse? Il est où les feux qui tombent du ciel quand Élie parle? Ils sont tous les milliers qui se convertissent avec la prédication des pierres. En bref, il est Dieu, ils sont tous les miracles. Bon, les livres de Ruth nous apprennent qu'en fait, le miracle, c'est un cœur qui se tourne vers Dieu complètement. Les miracles, c'est une personne qui s'humilie et qui s'abaisse. Les miracles, c'est une personne qui obéit à la volonté de Dieu. Et nous ne sommes pas tous appelés peut-être à vivre des choses extraordinaires dans notre vie extérieure. On ne va pas voir des partitions miraculeuses de l'eau, peut-être, ni des feux qui tombent du ciel, ni des multiplications surnaturelles, ou peut-être oui. Mais en tout cas, nous sommes tous appelés à vivre des choses extraordinaires dans notre cœur, tellement comme Ruth et comme Abraham, deux personnes qui mènent des vies très ordinaires, franchement, l'un et l'autre, mais qui seront des personnes, des hommes et des femmes, des foi, qui sont nos modèles à suivre. Dieu ne se fait pas présent avec des miracles époustouflants dans cette histoire. Dieu est présent dans les récits, dans la mesure où les personnages deviennent sa présence les uns pour les autres. En fait, les livres de Ruth, au-delà de cette histoire, que ça peut sembler une histoire, une idylle champêtre sans transcendance, c'est un livre révolutionnaire, subversif, même s'il ne paye pas de mine. Parce qu'en réalité, je vous ai caché ça, mais là, je vous voulais dire, Dans cette histoire, rien ne se passe comme le strict accomplissement de la loi voudrait. Je l'ai dit déjà au début, Ruth ne peut pas intégrer la communauté d'Israël. C'est un peuple maudit. C'est écrit dans Deutéronome. Et Moabite n'a pas de place en Israël. Et c'est écrit même ni la deuxième génération, dixième génération. Et pourtant, elle deviendra l'ancêtre du Messie. Ruth n'a pas les droits de glaner selon la Torah. Parce que ça, c'est un droit reconnu dans la Torah pour les hommes et les femmes d'Israël, pas pour ceux qui viennent de l'extérieur. Et encore pire, elle ne peut pas prétendre que quelqu'un va se marier avec elle sous prétexte qu'on va faire appel à la loi du Lévirat. Et quand même, elle le fait. C'est une loi réservée pour les hommes et les femmes d'Israël. Mais comment? Ce n'est pas possible. Est-ce que les personnages ne connaissent pas leur histoire, ne connaissent pas leur loi? C'est quoi cette affaire? En fait, le problème, c'est la hezet, ces mots dont je vous ai parlé au début. C'est que Noémie, d'abord, après Boaz, et après tous les peuples de Bethléem, vont faire une interprétation de la Torah élargie, généreuse. Oui, oui, c'est vrai, les Moabites ne peuvent pas être accueillis. Mais c'est aussi écrit que Dieu ne fait pas exception des personnes. Jamais. Et c'est écrit plusieurs fois, plein de fois en fait. Et c'est écrit que tu vas aimer ton voisin comme tu m'aimes. Ça, c'est Lévitique 19, c'est le verset que Jésus va détacher, il va mettre en... comment dire ça? Il va nous dire que c'est le deuxième commandement. C'est très important. Mais en fait, en Lévitique 19, il ne dit pas que tu vas aimer ton prochain. Il dit que tu vas aimer ton voisin. Et pour un juif, à l'époque, les voisins d'un juif, c'est toujours un autre juif. Du coup, on pourrait faire une lecture restrictive de ce commandement. Et c'est pour ça qu'à Jésus, on lui pose la question, mais c'est qui mon proche? Ce n'est pas une question bête. Mais ce que la personne qui connaît la Torah peut dire aussi, c'est oui, c'est vrai, Lévitique 19, il y a un commandement d'aimer, si tu veux, seulement mon voisin qui va être un juif. Mais un peu plus bas, dans le même chapitre, c'est écrit, et tu dois aimer l'étranger comme toi-même. Parce que toi, tu étais un étranger en Égypte. Et là, ça pique là. L'Éternel veut que tout le monde les connaisse, les reconnaisse, se retourne vers lui. On l'a chanté ou on l'a lu là ce matin aussi. Même les pharaons, les plus méchants des Égyptiens, même l'empereur babylonien Nabucodonosor. Alors, la pauvre Ruth, cette femme moabite, remplie des chesed. Et Dieu s'est écrit aussi qu'il est le père des orphelins et les défenseurs des veuves. En fait, la justice sociale est au cœur de la Torah. Ce projet d'un peuple élu qui va dans une terre promise, c'est pour construire une société où la justice est là. Il faut redistribuer toujours les ressources pour que personne soit dans les manques et dans les besoins. Alors, on voit que Noémie et Boaz, emportés par peut-être cet amour premier de Ruth. C'est comme l'étrangère qui vient dans la communauté dire, écoutez, vous avez oublié qu'en fait, c'est les chesed qui prend. Font une interprétation généreuse, amplificatrice de la Torah. Et l'amour extravagant, exagéré, inattendu de Ruth devient contagieux. C'est comme une traînée de poudre qui, une fois allumée, enflamme tous ceux qui s'approchent. D'abord Noémie et plus tard Boaz. L'interprétation élargie ranime la Torah. C'est exactement ce qui va faire Jésus. Tandis que l'interprétation restrictive, ce qui feront les pharisiens avec Jésus, sclérose les messages. Le livre de Ruth nous apprend un paradoxe que parfois, pour honorer la Torah, il faut aller au-delà de la Torah. Pour sauvegarder l'esprit de la Torah, il faut passer par-dessus de la petite lettre de la Torah. Nous qui sommes maintenant de ce côté de l'histoire des saluts, Jésus, le Fils de Dieu, est venu, il a vécu et il est mort pour nous. Il a pris nos péchés sur lui et il est ressuscité. On sait en plus que Dieu est amour. Ça, c'est écrit par exemple dans la première épître de Jean. Et l'amour, c'est un acte généreux, c'est de la chesed qui va au-delà de toute formulation juridique. On ne peut pas l'en contraindre parce qu'il dépasse les cadres juridiques. Les cadres du jury est très bon pour délimiter les mauvais, les mâles. On est tous d'accord sur pas convoité, pas meurtre, pas vol, etc. Mais les commandements en positive, qu'est-ce que c'est aimer ? Qu'est-ce qu'on interprète chacun entre nous ? Du coup, dans cette histoire, on voit qu'ils accomplissent la loi, mais en la dépassant, même si cela peut sonner à paradoxe. Autrement dit, Dieu, qui est amour, l'amour parfait, est au-delà de sa propre loi. Et Jésus, qui est Dieu incarné, fait homme, l'amour parfait, va essayer de montrer cette réalité, la même chose aux pharisiens avec la parabole du bon samaritain. L'amour pour les personnes passe avant les légalismes. L'amour pour les personnes passe avant les textes. La personne avant les livres. Il faut fermer les livres et accueillir la personne. Les livres de Ruth, à la fin, Bob, c'est pas vraiment un simple idylle champêtre. C'est un commentaire critique d'une certaine interprétation herméneutique restrictive de la loi, et elle a un goût presque évangélique. À nouveau, elle nous annonce ce qu'elle va arriver. Et c'est pour cela que Ruth a pu rentrer dans les peuples et devenir l'ancêtre du Messie, et l'histoire du salut s'est développée comme on les connaît aujourd'hui. Les thèses du livre est que si seulement l'amour, dans ses sens de l'Echeset, triomphait, si seulement l'interprétation généreuse de la Torah prévalait sur l'observance méticuleuse mais étroite, tout espoir serait permis. Et l'impossible deviendrait impossible. Et du coup, on peut passer du veuvage, chapitre 1, au mariage, chapitre 4. De l'amertume de Noémie au début du livre, à la reconnaissance, elle va remercier l'Éternel pour cette bébé qui vient d'arriver. On passe du deuil à l'allégresse. On passe de la solitude à la famille, de la mort à la vie, du désespoir à l'espoir. Si on décide de faire les chemins qui va des Moab à Juda, si on décide de reconnaître notre Dieu comme le vrai et seul Dieu et faire confiance à Jésus, mettre notre confiance en lui. Et là, je vais prier. Merci Seigneur pour ta parole qui nous encourage, qui nous édifie, qui nous éclaircit les chemins. Seigneur, je te demande que, oui, que tu fasses grandir en nous quelque chose, que chacun et chacune ici puisse partir avec voilà, les sentiments que tu as mis quelque chose chez lui, chez elle, et qu'il est plus proche de toi. Aide-nous à nous approcher de toi, Seigneur, parce que c'est comme ça aussi que tu t'approches de nous. Je demande ça au nom de Jésus. Amen.